L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
On ne peut pas dire que tout le monde se réjouisse de voir un jour les voitures autonomes débarquer dans nos rues. Pourtant, elles sont bien en test hors circuit dans certains pays du globe. On en a parlé, il y a eu des accidents dont on a parlé aussi, bref, mauvaise pub. Et puis on s'est rendu compte que faire circuler des robots qui peuvent facilement tuer par accident, dans un lieu aussi commun que la rue, posait de nouvelles questions éthiques et rendait de vieux problèmes philosophiques très actuels. Cela explique le succès de la plateforme Moral Machine qui propose de résoudre des dilemmes auxquels des voitures autonomes pourraient être confrontées. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un de ses créateurs. Bonjour, Jean-François Bonnefond. Vous êtes docteur en psychologie cognitive et directeur de recherche à la Toulouse Business School. Vous êtes également auteur de La voiture qui en savait trop aux éditions Humaine Science. Alors très brièvement, comment est née l'idée de Moral Machine ?
C'est une histoire un peu compliquée que je raconte dans mon livre, comment on en est arrivé à créer Moral Machine. Mais grosso modo, quand on avait commencé avec mon équipe à se poser la question de ces dilemmes moraux des voitures autonomes, on travaillait sur des situations très simplifiées. On disait aux gens, en gros, est-ce qu'une voiture autonome, si elle a le choix entre tuer une personne ou 10, il vaut mieux qu'elle en tue une ou qu'elle en tue 10. Et de façon générale, on voyait bien que les gens préféraient nous disaient, bah, il vaut mieux que l'on tue un. Mais d'un autre côté, on donnait que ces chiffres-là aux gens. Donc on pouvait se demander si les résultats seraient stables, si on introduisait des variations. Si par exemple on disait, est-ce qu'une voiture autonome devrait préférer tuer 5 adultes qu'un enfant, par exemple. Ce qui semblait être un cas qui posait problème aux gens intuitivement. Donc on a commencé à se demander est-ce qu'il faudrait qu'on introduise plus de variations dans la situation d'accident qu'on est en train d'étudier. Et un autre problème, c'est que dès qu'on commence à introduire de la variation, c'est-à-dire d'avoir des hommes et des femmes dans les situations d'accident, des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, des bébés, des femmes enceintes, on se retrouve à avoir des millions de scénarios. Très très vite, la combinatoire explose. Donc on ne pouvait absolument pas faire des sciences sociales traditionnelles, parce que quand vous avez 1 million de questions, vous ne faites pas un sondage par téléphone. Donc, notre solution, ça a été cette idée qui était un peu nouvelle, qui était de faire une enquête à but scientifique, mais en lui donnant l'apparence d'un site web un peu ludique et de tout miser sur la viralité de ce site web pour essayer d'avoir suffisamment de réponses, suffisamment de participants pour balayer cet espace gigantesque de toutes les possibilités qu'on avait à tester.
Et ça a marché.
Ça a marché. Alors, j'aimerais pouvoir dire qu'on a la recette, hein, mais en fait, on a eu quand même pas mal de coups de chance. Disons qu'on a tout fait pour que le site soit connu et se répande, mais il y a eu quelques gros déclencheurs qu'on avait en fait même pas anticipé. La plus grosse aide qu'on a rencontrée, bah, c'est celle des gens sur YouTube, en fait. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé, mais qui, après coup, est un peu logique. C'est qu'il y a tellement de scénarios dans Moral Machine que vous ne tombez jamais deux fois sur le même. Vous pouvez en faire 1000, vous n'allez jamais tomber deux fois sur le même. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire une vidéo de vous sur YouTube en train de répondre aux questions de Moral Machine, bah, vous aurez vos questions que personne d'autre n'a eues. Donc, chaque vidéo, si vous voulez, est unique. Et donc, à ce jour, bah, je crois que des vidéos YouTube de gens qui se filment en train de répondre à Moral Machine, il y en a un bon millier, quoi. Et elles ont accumulé 20-30 millions de vues. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé, mais qui a vraiment participé à la viralité du site.
Ça fait maintenant un petit moment que Moral Machine est en ligne et que les gens y répondent. Est-ce que vous avez déjà tiré des conclusions des réponses que les gens ont faites à travers le monde ?
Oui. Donc, on a, bien sûr, Moral Machine tourne toujours. Je crois qu'à ce jour, on a dépassé largement les 100 millions de réponses. Ça continue à tourner, mais à un moment, pour nous, il fallait bien décider, ça y est, maintenant, on va, si vous voulez, prendre toutes les réponses qui ont été exprimées jusqu'ici et les analyser pour écrire un rapport, ce qu'on a fait en 2018. Et là, j'ai un trou, en fait, je ne sais plus combien on avait de réponses quand on a vu ça, 40 millions peut-être, je ne sais plus, 50. Donc, on a publié l'analyse de ces réponses-là dans Nature. pour en gros expliquer quelles sont les préférences morales globales à l'échelle de la planète. Est-ce que ces réponses-là changent d'une personne à l'autre? Et puis, est-ce qu'elles changent d'une culture à l'autre? Moral Machine, dans Moral Machine, il y a neuf variations dans les scénarios, si vous voulez. Donc, l'âge des personnages, par exemple, leur sexe, est-ce que ce sont des humains ou des animaux, est-ce qu'ils sont dans la voiture ou hors de la voiture. Donc, il y a neuf grandes sources de variations comme ça. Et on a calculé à l'échelle de la planète à quel point ces dimensions-là jouent un rôle important dans les décisions des gens. Donc, on a, si vous voulez, classé ces neuf choses-là. Le top 3 qui ressort de façon massive, peut-être sans surprise, c'est d'abord sauver les humains plutôt que les animaux, ensuite sauver le plus grand nombre de gens, et puis en 3, sauver les enfants d'abord. Donc, ça, c'est vraiment le grand top 3 à l'échelle de la planète. Et puis, si on regarde maintenant pays par pays, la première chose qu'on réalise, et c'était vraiment très important pour nous, c'est que les préférences vont toujours dans le même sens dans tous les pays. Alors, c'est quelque chose qui parfois est pas assez souligné quand on parle de moral machine, c'est que par exemple, tous les pays au monde préfèrent sauver les enfants que les personnages plus âgés. Tous les pays au monde préfèrent sauver les femmes plutôt que les hommes, par exemple. Tous les pays au monde préfèrent sauver les humains plutôt que les animaux. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais de renversement dans cette référence-là. Bien sûr, ensuite, ce qui va être différent, c'est à quel point une préférence ou l'autre est forte dans un pays versus un autre. Donc, par exemple, on a réalisé que dans les pays d'Asie, la préférence pour sacrifier les personnes âgées ou les enfants existaient, mais étaient nettement moins fortes que, en Occident, par exemple.
Vous disposez donc maintenant d'un certain nombre de données. À quoi ou à qui vont-elles servir?
Alors, il y a bien sûr une dimension qui est, si vous voulez, psychologique. C'est-à-dire, c'était une opportunité incroyable d'avoir cette espèce d'arbre généalogique, moral de l'humanité. En collectant des données de façon aussi vaste, à une telle échelle, on a créé une base qui permet de retracer, disons, les grandes tendances morales ou les grandes préférences morales un peu partout dans le monde. Ok, ça c'est la version purement scientifique, recherche. Ensuite, ce qui est plus délicat, c'est d'identifier ce qu'on peut en faire d'un point de vue appliqué, c'est-à-dire dans la régulation des voitures autonomes. Là, nous, on s'est montré très prudent, ce qui n'a pas suffi, puisque plein de gens nous ont quand même accusés de vouloir simplement décalquer, à partir des réponses des gens en Moral Machine, des règles pour la politique des voitures autonomes. Ce qui n'a jamais été notre intention. Nous, plus modestement, ce qu'on a proposé, c'est que les gouvernements, les agences de régulation doivent faire leur choix pour ces problèmes-là. Ils doivent prendre les décisions qui leur semblent les meilleures. Mais ce que leur offre nos données, c'est de savoir à l'avance les points qui vont le plus crisper leur opinion publique et les points qui passeront tout seuls parce que les gens sont déjà d'accord. Par exemple, si un gouvernement, comme par exemple le gouvernement allemand, parce qu'il se trouve que c'est un pays qui a formé une commission pour ces questions-là, donc la commission éthique allemande pour les voitures autonomes a dit il faut toujours sauver les humains plutôt que les animaux. Bon, bah, bonne nouvelle, nous on peut regarder les données en Allemagne et leur dire bah, très bien, de toute façon, votre population est à l'unanimité ou presque d'accord avec ça. Mais la commission éthique allemande ensuite a dit il nous semble hors de question de privilégier la sécurité des enfants. Ils ne doivent pas être protégés aux dépens des gens plus âgés. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, ils prennent leur décision, mais ce que nos données leur disent, c'est si vous prenez cette décision-là, soyez bien conscient qu'il y a une très grande majorité dans votre population qui est contre, et donc il va falloir que là, sur ce point-là, vous fassiez un gros effort d'explication auprès de votre population. Donc, elle a remis un rapport sur ces questions de dilemme. Depuis, la Commission européenne, donc l'Union européenne, a décidé de mettre en place un groupe pour l'éthique des voitures autonomes à l'échelle donc de l'Union européenne pour répondre à ces questions et à d'autres questions hein, relevant de l'éthique des véhicules autonomes. Alors, je peux vous parler de l'existence de ce groupe, mais je ne peux pas trop vous dire ce qui s'y passe. Enfin, je sais ce qui s'y passe parce que je suis président de ce groupe, mais disons, le rapport public ne sera disponible que cet été.
Nous attendrons donc cet été pour en savoir plus sur les directives européennes. Revenons un peu à Moral Machine. Vous nous avez dit tout à l'heure que les gens vous avaient accusé de récolter des données de façon à faire des lois sur les voitures autonomes. Mais d'un autre côté, est-ce que poser des questions sur des événements qui seront extrêmement peu fréquents lorsque les voitures autonomes seront là, est-ce que ça n'a pas participé à paniquer une autre partie des gens?
Figurez-vous qu'on s'en est un peu inquiété de cette affaire-là, parce que quand on a commencé à parler de ces sujets-là et que le thème là, des dilemmes moraux des voitures a été repris partout, des gens ont commencé à nous faire ce reproche qu'on était en train de paniquer les gens pour une situation extrêmement improbable et éventuellement de compromettre l'adoption d'une technologie qui a la promesse d'une plus grande sécurité. Parce qu'on avait affolé les gens sur un problème extrêmement rare. Donc, on s'est un peu inquiété de ça, et nous, on a en fait réalisé des enquêtes pour essayer de voir à quel point l'exposition à ces sujets-là pouvait effrayer les gens quant à adopter une voiture autonome ou non. On s'est aperçu qu'il n'y a en fait aucun effet. Les dilemmes, ça pose pas de problème aux gens. Ce qui leur pose problème, c'est la proportion des accidents. Pas des dilemmes moraux sur la route, c'est à quel point est-ce que la voiture est sûre au sens où elle ne rentre pas dans un arbre, quoi. C'est ça qui pèse, c'est pas vraiment ce que fera la voiture dans un cas hyper extrême où j'ai 5 personnes sur le trottoir et on est deux dans la voiture. Vous voyez.
La sécurité des voitures autonomes, c'est vraiment là où le bât blesse, effectivement. Et là-dessus, bon, bah, y a eu quelques accidents dont on a énormément parlé dans les médias. Et je le disais en introduction, ça a fait très mauvaise pub. Alors après cela, comment donner envie aux gens d'acheter et ou d'utiliser une voiture autonome?
Bon, en préambule, je dis que c'est pas mon métier de vendre des voitures autonomes. Hein. Mon travail, c'est pas de trouver des raisons pour donner aux gens envie d'acheter. Ça, c'est les gens marketing qui s'en occuperont. Mais en tout cas, moi, ce qui me préoccupe, c'est est-ce qu'on peut identifier des mauvaises raisons qu'auraient les gens d'avoir peur? Parce que l'idée, c'est qu'il faut que les gens puissent prendre une décision rationnelle pour ce qui est de passer à la voiture autonome ou non. En fonction bien des bénéfices que ça peut leur apporter ou pas, et qui prennent cette décision-là de façon rationnelle. Donc, moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est est-ce qu'il y a des craintes irrationnelles, par exemple en termes de sécurité, ou des attentes qui sont démesurées. Et une des choses que j'ai observées avec mes collègues, c'est que les attentes en matière de sécurité, quand les gens prennent les voitures autonomes, sont un peu irréalistes. Les exigences, disons, qu'ils ont. C'est peut-être un peu la faute de tout le discours qu'il y a eu autour de la sécurité des voitures autonomes, parce qu'il y a ce chiffre que tout le monde a brandi à un moment ou à un autre, de dire qu'à terme, peut-être qu'on arriverait à éliminer 95% des accidents, ou 90%, ou 98%, ça dépend des gens. Vous voyez, on a commencé à dire aux gens qu'un jour, les voitures autonomes élimineraient quasiment tous les accidents. Et si vous voulez, quand vous dites ça aux gens, ben, ils l'entendent et ils prennent ça un peu comme point de comparaison. Et maintenant, ils se disent, si on leur dit, ben, là, on a une voiture autonome qui élimine 10% des accidents, ben, ça ne les séduit plus vraiment. À ça s'ajoute le problème qui est que les gens ont en moyenne une perception complètement faussée de leur propre sécurité en tant que conducteur. En moyenne, les gens se croient dans le top 20% des conducteurs, si vous voulez. Donc tout le monde s'imagine être un excellent conducteur. Donc dire qu'une voiture est par exemple 20% plus sûre que le conducteur le moins moyen, bah, pour plein de gens, c'est pas assez. Ils se disent, mais moi je vais y perdre, parce que moi je suis bien meilleur que ça. Donc là, le mélange de ces choses fait que il y a un truc qui ne va pas marcher pour donner envie aux gens d'avoir une voiture autonome, c'est de leur balancer des statistiques de sécurité qui sont bien en deçà de ce qu'ils se sont mis à espérer.
Oui, mais elles sont quand même bien au-dessus que les statistiques de sécurité avec un conducteur humain.
Oh là là, alors ça c'est une histoire assez terrible, si vous voulez, ce qui est que en fait, on n'en sait rien, parce que c'est un problème de... Là, il y a vraiment un problème statistique. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait idéalement, c'est par exemple comparer le taux d'accident, le taux de crash d'une voiture autonome, par exemple, par 1 million de kilomètres, disons, comparé à celui d'un conducteur humain. Sauf que, il y a si peu de voitures autonomes test en circulation, et les accidents sont heureusement hein, des événements si rares, que si vous voulez avoir une comparaison statistique un peu fiable, il va falloir observer très 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 longtemps les voitures autonomes qui sont en test en ce moment. En fait, si longtemps qu'il y a certaines simulations qui disent, en l'état actuel des flottes, il va nous falloir 1 siècle, 2 siècles, pour avoir des résultats statistiquement fiables. Seulement, on fait quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on démultiplie les flottes de véhicules qui sont en circulation pour les tests? Mais si vous voulez, avant d'avoir un déploiement massif des voitures autonomes en test sur les routes, on aimerait être sûr qu'elles sont quand même un peu plus sûres que les humains, au moins. Seulement pour qu'on soit sûr qu'elles soient un peu plus sûres que les humains, il faudrait les avoir déployées en masse sur la route, donc on ne s'en sort pas.
L'autre problème auquel nous allons être confrontés, c'est celui de la cohabitation entre les voitures autonomes et les voitures qui ne le seront pas encore.
Oui, forcément, parce que même si, disons, une voiture autonome sortait demain, et que dès qu'elle sort, elle plaît tellement aux gens que tous ceux qui remplacent leur voiture remplacent leur voiture conventionnelle par cette voiture autonome, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant de renouveler le parc, en fait. Donc, forcément, on va passer par une période très très longue de cohabitation entre une certaine proportion de voitures autonomes sur les routes et des voitures conduites par les gens. Ce qui va, oui, forcément poser des problèmes assez intéressants.
Oui, on peut anticiper des problèmes tels que des accidents. Et d'ailleurs, le problème dont on entend beaucoup parler, c'est celui de la responsabilité. En fait, on ne sait jamais vraiment qui est responsable en cas d'accident avec une voiture autonome.
Non, c'est effectivement très compliqué, surtout que les situations, pour l'instant, sont jamais très claires. L'accident, disons, qui a fait le plus parler, c'est celui d'une voiture test Uber en Arizona qui a malheureusement tué une passante. Et là, la situation est assez inextricable parce que on se retrouve dans une situation où, alors c'est vrai, la personne qui a été tuée était en train de traverser une route à plusieurs voies la nuit en dehors d'un passage scouté dans une zone mal éclairée. Sa toxicologie montrait des traces de drogue, mais d'un autre côté, la voiture n'a pas eu le temps de freiner parce que le testeur avait fait des choix bizarres, par exemple celui de déactiver la fonction de freinage autonome, donc en laissant la personne qui est opératrice derrière le volant le soin de freiner. Seulement cette personne, ça faisait 3 quarts d'heure qu'elle était en train de regarder The Voice sur son téléphone au lieu de regarder la route. Donc, à l'arrivée, si vous voulez, c'est une espèce de constellation dramatique de responsabilité qui amène à un accident. Mais effectivement, c'est un accident fatal. Mais en effet, c'est très très dur là de démêler quelle est la part exacte de responsabilité de chacun.
Et dans le cas présent, y a-t-il eu une décision juridique concernant cet accident?
Alors, il n'y a pas d'histoire juridique puisque la Uber a trouvé un arrangement avec la famille de la victime dans les quelques jours qui ont suivi l'accident pour ne pas aller au procès. Donc il y a une très volumineuse enquête qui a été réalisée par l'autorité de la sécurité routière des États-Unis pour comprendre ce qui s'était passé, mais ça n'est pas, disons, un procès. Donc, il n'y a pas de suite légale à ça. Ça aurait été très long et c'est un peu comme l'accident fatal d'une Tesla en mode autopilote l'année d'avant, enfin 2 ans avant. Là aussi, Tesla a trouvé un arrangement très vite avec la famille. Je crois que même si, disons, la compagnie est à peu près sûre qu'à l'arrivée, on ne va pas la tenir responsable ou pleinement responsable de ce qui s'est passé, je pense que ces compagnies-là n'ont aucune envie d'avoir un procès qui traîne pendant 2 ans et qui fait la une des journaux. En rappelant sans arrêt aux gens que quelqu'un a été tué par une voiture autonome.
Mais alors aujourd'hui, y a-t-il déjà des lois relatives aux voitures autonomes?
Non, pour l'instant, les voitures autonomes, disons, sont soumises au code de la route. En particulier parce que, encore une fois, à de très rares exceptions près, il y a toujours un humain derrière le volant, en réalité. Hein, qui se tient prêt à reprendre le contrôle. Donc, ces voitures-là tombent sous le coup des lois du code de la route, hein. Ensuite, il y a évidemment des lois, alors je ne sais pas si vous appelez ça des lois, mais des normes ISO, par exemple, sur toutes les composantes de la voiture, ses capteurs, sa performance. Donc, il y a tout un appareil de lois préexistantes qui s'appliquent aux voitures autonomes. Il n'y a pas vraiment encore de loi spécifique qui s'appliquerait uniquement aux voitures autonomes et pas aux autres voitures.
Merci beaucoup, Jean-François Bonnefond, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage La voiture qui en savait trop aux éditions Humaine Science. À bientôt sur Radio Campus Paris.